Bienvenue sur INF, de novice à experte, le podcast qui accompagne le passage de l'école à la vraie vie infirmière. Je suis Karine, ou prof INF, enseignante et infirmière, et ici, on parle sans filtre du parcours de formation, du développement professionnel, des défis du début de pratique comme infirmière et de tout ce qu'on apprend entre les lits et le terrain. Alors aujourd'hui, on prend un moment pour réfléchir ensemble et peut-être mettre des mots sur ce que tu vis ou sur ce que tu t'apprêtes à vivre. Parce que devenir infirmière, là, ça se fait pas en un jour, ça se construit une expérience à la fois. Salut, bienvenue sur INF de novice à expert, le podcast qui parle de la vraie vie infirmière puis de ce qu'on trouve pas toujours dans les livres. Je m'appelle Karine, je suis infirmière et enseignante depuis plusieurs années en soins infirmiers. Et ici, on parle de devenir infirmière, de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive, de cette progression-là aussi dans l'intégration de la profession, que ce soit au travers de ton parcours d'étudiante ou d'infirmière en début de pratique. Je suis là pour t'accompagner. Après une petite pause, j'avais envie de revenir simplement, de reconnecter avec vous, puis de vous raconter où j'en suis, puis où est-ce qu'est-ce que je voulais vous partager dans ce podcast, puis pourquoi il existe encore, parce que pour moi, c'est vraiment important de renouveler ça. Comme vous savez, on a pris une petite pause depuis janvier, on revient maintenant au mois de mars. La raison derrière ça, ben, c'est d'abord et avant tout parce que Sylvie, elle a pris sa retraite. Donc, Sylvie, si tu m'écoutes, je veux juste te dire de profiter de tous ces beaux moments avec ton conjoint, d'en profiter de cette retraite-là bien méritée. Je pense à vous. Et puis, ben, merci de m'avoir accompagnée, d'avoir été à mes côtés durant la première saison d'INF de novice à experte. Aussi, d'avoir été un modèle pour moi d'enfoncer dans tous nos projets qu'on veut entreprendre. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as accompli durant ta carrière. Et puis, ben, je te souhaite la meilleure des retraites bien méritées. Donc, je pense à toi beaucoup en débutant ce nouveau podcast-là qui va prendre une nouvelle forme. Mais merci pour ta contribution durant la dernière année. Puis, merci d'avoir foncé dans cette idée-là avec moi l'année passée. Sans toi, peut-être que je serais encore en réflexion sur commencer mon podcast, mais peut-être que je ne l'aurais même pas commencé. Donc, merci vraiment pour ça. L'objectif du podcast, c'est de faire un lien entre la théorie, le terrain, de normaliser ce que vous vivez, comme je vous dis, parce que c'est un monde qui est rempli de doutes, de remises en question, de première fois d'émotions fortes. Puis je veux normaliser puis valider ce que vous sentez parce que je vous croise sur les départements, je le vois ce que vous sentez quand on commence. Puis souvent, vous avez l'impression d'être seul dans ce monde-là. Puis souvent, quand on commence comme infirmière, ben, on se retrouve sur un département. Parfois, il y a une ou deux CP avec nous, mais pas nécessairement nos amis, les gens avec qui on a fait notre DEC. Donc, on a l'impression qu'on vit ce stress-là de tout seul puis de notre côté. Donc, le podcast, entre autres, ça va être ça. C'est un espace où est-ce qu'on peut dire ces choses-là, les normaliser et se soutenir entre nous. Je vais évidemment aussi vous donner plein de trucs sur comment vous approprier la profession puis cheminer là-dedans. Pour moi, c'est ça, le podcast INF de novice à experte. D'abord, je veux vous dire aussi que je reviens avec beaucoup d'humilité. Je reviens avec un nouveau format et entre autres des épisodes solo. Je vous parlerai un petit peu plus tard dans le podcast du prochain, de mon projet de l'année, là, de la forme que ça va prendre le podcast. Mais je vous demande en premier de la clémence parce que j'ai pas l'habitude de parler seule au micro, de pas avoir cet interlocuteur-là nécessairement. Donc, ça nécessite quand même une bonne tête pour structurer notre pensée puis ce qu'on veut vous dire durant le podcast. Donc, je vous demande la clémence durant les premiers épisodes pour que je puisse m'adapter à cette nouvelle réalité-là et moi aussi apprendre cette spécialité-là de parler au micro et de se structurer. Donc, merci pour votre bienveillance au travers de ça. Je sais que parfois, peut-être, je vais m'éparpiller et peut-être que je vais répéter des choses, peut-être que je vais aussi déparler parce que c'est ma force de déparler. Des fois, on se demande comment ça, je suis enseignante, tellement je switch des mots dans ce que je dis, mais. Donc, je vous remercie pour votre compréhension au travers de ce processus-là. Puis restez avec moi, je vous dis, ça va en valoir la peine. À qui ce podcast-là s'adresse? Ben, si tu es une étudiante en soins infirmiers, tu commences tes soins, que tu es en fin de parcours de soins infirmiers aussi, au DEC ou au BAC ou comme infirmière auxiliaire. Donc, que tu es dans un parcours dans le milieu de la santé. Je pense qu'avec vous, la vision du podcast, c'est de vous accompagner au travers de ça, de vous donner des trucs sur comment bien gérer vos études, comment bien se préparer à un stage, par exemple. Sur aussi comment changer notre perspective par rapport aux enseignants. Je vais vous montrer cette proximité-là. Dans le fond, le podcast, quand il a été créé, puis aussi ma page TikTok, l'objectif, c'était de me rapprocher des étudiants, d'aller vous rejoindre à un endroit où est-ce que vous êtes, puis pouvoir aussi avoir cette relation de proximité-là pour vous montrer que justement, on n'est pas sur un. On est atteignable comme enseignant, vous pouvez venir nous parler, on est là pour ça aussi, entre autres, pour vous aider à cheminer là-dedans. Donc, on est des aides et des accompagnateurs avant tout et non pas seulement des évaluateurs. Donc, la page est née et le podcast est né derrière avec cet objectif-là de me rapprocher de vous puis d'avoir un canal de communication étroit. Donc, le podcast s'adresse à vous et le podcast s'adresse aussi aux nouvelles infirmières, donc qui commencent dans la pratique, qui parfois justement quand on commence dans la pratique, ben on a comme un choc de la réalité clinique. On se retrouve sur un département parfois où est-ce que ce qu'on a, on manque peut-être de temps pour appliquer ce qu'on a appris. On a moins d'accompagnateurs que durant notre stage, pas notre stage, mais notre DEC, par exemple. Donc, durant notre DEC, on a des profs autour de nous, on a des gens vers qui on peut se retrouver. Puis là, ben, soudainement, on se retrouve sur un département avec un employeur, une conseillère qui nous accompagne, mais on manque un petit peu d'entourage puis de réseau peut-être. Donc, le podcast est pour vous aussi. Il est là aussi pour vous former. J'ai des invités qui vont venir cette saison-ci avec qui on va pouvoir échanger sur leurs besoins. Par exemple, je vais recevoir des proches aidants, des personnes, des patients partenaires aussi. Donc, des gens qui vont venir nous parler de leur expérience dans le milieu de la santé, puis de qu'est-ce qu'une infirmière devrait connaître sur leur réalité pour mieux les accompagner, puis tout en échangeant aussi sur notre réalité en tant qu'infirmière, puis sur nos pratiques, tu sais, puis dans le fond, le fait justement que comment ça marche de notre côté en échange avec nos proches aidants et nos personnes soignées, mais d'échanger sur cette réalité-là puis de mieux se comprendre ensemble. Donc ça, j'ai vraiment hâte de vous présenter les prochains podcasts avec mes invités. Je vais avoir aussi des invités qui sont des enseignants, enseignants soins infirmiers. Je vais avoir des étudiants et des nouveaux diplômés qui vont venir nous parler de leur expérience. Encore une fois, dans la vision de valider votre parcours, d'avoir des parcours inspirants aussi, de voir qu'on peut cheminer là-dedans, puis qu'on apprend énormément durant ce processus-là, puis que tout n'est pas toujours rose, mais qu'on finit toujours par trouver notre X au travers de notre parcours. Donc, on va apprendre à devenir infirmière ensemble. Pour ma part, la profession infirmière, c'est quelque chose qui me fait apprendre à tous les jours. J'apprends toujours des nouvelles choses, que ce soit comme enseignante ou comme infirmière. Donc, je veux vous transmettre cette passion-là d'apprendre, de s'engager et toute la bienveillance au travers de votre processus là, d'intégration dans la profession. Soyez avec moi durant les prochains épisodes. Je vais vraiment être heureuse de vous amener dans cette aventure-là avec moi. Donc, notre podcast qui va changer, c'est que je vais être seule au micro, mais avec des interlocuteurs, comme je disais. La vision du podcast va rester le même. C'est toujours des épisodes où est-ce qu'on va parler, on va normaliser, on va valider. On va aussi parler de la réalité réelle, là, réalité réelle. Ben oui, Karine, la réalité, c'est réel. La réalité du terrain. On prévoit des épisodes 2 fois par mois, donc on va changer notre fréquence. Un épisode solo, un épisode avec un invité. On veut aussi aller vers l'humain, des invités qui vont vous parler, qui sont vrais, qui vont vous parler avec le cœur. Comme je disais, des nouvelles infirmières, des proches aidants, des mentors aussi. On veut normaliser les erreurs, les doutes, les zones grises. J'ai aussi prévu pour chaque épisode un segment Q&A, donc des questions et des réponses à celles-ci, que ça soit posé sur ma page TikTok ou sous les commentaires de Spotify, YouTube, Balado Québec ou Apple Music. Si vous écrivez sous mes vidéos ou mes audios, vous aurez des réponses à vos questions. Donc, je vous encourage dès maintenant d'aller les écrire, vos questions, parce que ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Je suis là pour ça. Je prévois aussi peut-être des petites situations cliniques qui vous permettront de réfléchir et de progresser dans votre apprentissage. Toujours autant d'authenticité, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Avant de passer à la section Q&A, je voulais prendre le temps de vous dire ce que moi je pensais, ce que je pense qu'il est essentiel à comprendre puis à savoir, peut-être plus à savoir là, comme infirmière en début de pratique. Des choses que moi j'aurais aimé de savoir quand j'ai commencé à être infirmière. Parce que c'est justement un gros moment de notre profession quand on commence sur le terrain. On perd des repères, on est surchargé par le travail, on est toujours en situation de déséquilibre, hein, parce que j'ai toujours des choses que je ne connais pas à tous les jours quand je rentre travailler. Il y a probablement une nouvelle situation, un nouveau patient qui va me challenger, des défis, des nouveaux documents à remplir. Donc, je suis toujours dans la nouveauté et très rarement dans le confort. Puis ça, moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise. Quand j'ai commencé à être infirmière, que c'est normal que je me sente pas compétente dès le début. Donc, une des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est tu penses si tu penses que tu devais être compétente dès maintenant, tu te trompes. Okay? Donc, quand on commence, on est en apprentissage pendant encore un bon bout, puis c'est justement ça le titre du podcast, Inf de novice à experte. On commence comme une novice, on est débutante, puis il faut accepter cette posture-là. C'est normal de pas tout savoir, d'avoir peur de déranger avec nos questions, d'avoir l'impression d'être un petit peu plus lente, puis de se comparer à des infirmières qui sont plus expérimentées, puis se dire, oh my God, je serai jamais à ce point-là. Par contre, essaie de remettre ta lunette puis de te mettre en posture d'apprentissage. Tu es en train d'apprendre. Une profession, d'apprendre une très grande profession aussi qui a beaucoup de complexité derrière parce que justement, un patient n'est jamais pareil que l'autre à côté. Donc, même s'ils ont le même diagnostic, ça ne sera jamais la même prise en charge. C'est des situations complexes de soins qu'on vit à l'hôpital. Normalise que tu ne sais pas tout. C'est vraiment correct. Pose des questions, va vers les infirmières plus expérimentées, demande-leur leur aide. Elles vont devenir des alliés plutôt que des comparaisons, mais permets-toi d'avoir cette posture-là d'apprentissage pendant un bon bout encore, donc pas nécessairement seulement durant ton orientation. Ça prend du temps durant les premières années de ta pratique. Permets-toi d'être en apprentissage. Premier truc. Deuxième truc que je pense que j'ai beaucoup essayé quand j'ai commencé à pratiquer. C'est de construire une carapace. Puis là, c'est pas ça le truc, en fait. Le truc, c'est de laisser tomber la carapace. L'émotion, ce n'est pas une faiblesse. Donc, d'accepter que tu as des émotions, que tu vis des journées plus difficiles, que certaines choses résonnent plus en toi. Quand on commence, on se dit, il va falloir que je me construise une carapace. On se fait dire ça énormément aussi, de se construire une carapace, puis que c'est pas normal de pleurer, que c'est pas normal d'être préoccupé par nos patients ou même de s'attacher à eux. que je devrais ne pas me laisser impacter par ces situations-là. Puis des fois, on ne sait pas exactement pourquoi, mais certains patients vont résonner en nous, puis vont nous amener des émotions. Ces émotions-là, la pire chose qu'on peut faire, c'est les camoufler, puis les rentrer en dedans, là, puis donc de les refouler, de ne pas les verbaliser, de ne pas les gérer, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que je construis un gros sac à dos que je pèse, qui pèse lourd, de plus en plus lourd. Puis c'est comme ça que je me ramasse brûlée avec, en burn-out ou même juste avec des difficultés à rentrer avec beaucoup d'anxiété pour rentrer travailler. Si je ne gère pas ces émotions-là au quotidien, ben c'est comme ça que je me rends vraiment la vie dure finalement. Donc, pleurer après un quart de travail, de dire à mes collègues qu'il y a quelque chose que j'ai vécu dans une chambre qui était plus difficile, c'est très, très sain de dire ces choses-là, de nommer mes émotions, de les valider auprès d'un collègue. Donc, c'est correct de vivre ces émotions-là. Permets-les-toi, même si tu es en début de pratique. Trouve-toi un pilier vers qui te retourner quand que tu vis des émotions. Puis cette émotion-là, ça devient un outil clinique parce que ça t'amène la réflexion, ça t'amène à grandir dans ces situations-là et à trouver ton X là, par rapport à la relation avec le patient. Ce n'est pas un obstacle. Troisième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise, c'est que tu n'as pas à prouver ta valeur à chaque jour. Donc, on a l'impression qu'on est comme en approbation constamment quand on commence sur un milieu. On veut plaire à tout le monde, on ne veut pas avoir l'air incompétente, on veut dire oui à tout, on ne veut pas demander de l'aide parce qu'on veut montrer qu'on est capable. Mais on est débutante et c'est correct de demander de l'aide, c'est correct de ne pas savoir. Tu as ta place sur ce département-là, tu as été engagée comme toutes les autres. Tu n'as pas à mériter ta place sur le département. Donc, permets-toi de dire non, permets-toi de demander de l'aide. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Ce n'est pas en évaluation constante. Après, on veut toujours des soins sécuritaires, là, soyez certains, mais tu n'as pas besoin de chercher l'approbation de tes collègues constamment. Oui, peut-être qu'ils vont trouver que tu devrais prendre ta pause ou peu importe. Mais ça leur appartient. Toi, tu es en apprentissage, tu débutes une nouvelle profession, tu as ta place sur ce département-là, tu n'as pas à la mériter. Just take it. Quatrième chose que j'aurais aimé que on me dise quand on commence, c'est que les doutes vont rester. Les incertitudes, elles ne vont jamais disparaître durant ta progression. Donc, on a l'impression que plus on avance dans la profession, plus on est certain, plus on va avoir notre jugement clinique, notre raisonnement clinique qui se développe, puis que je ne douterai plus rendue experte. Eh bien, c'est faux, parce que le doute, c'est en soi un avantage, puis c'est qu'est-ce qui nous permet, entre autres, d'être sécuritaire, d'avoir aussi des petits red flags qui lèvent. Donc, même après 5, 10, 15 ans, tu auras encore des doutes par rapport à tes soins, par rapport à, oh, est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire? Est-ce que j'aurais dû aller vers une autre option? Aussi, ben, en plus de l'incertitude, ben, on peut encore se tromper même après plusieurs années d'expérience. Donc, mets-toi pas la pression de n'avoir aucun de doute. Puis les doutes aussi, ça peut être par rapport à ta place dans la profession ou sur un certain département. L'incertitude, elle est saine, elle te permet de réfléchir et d'avancer. Donc, conserve-la, accepte-la, puis après ça, ben, on réfléchit, ben, on essaie d'avancer avec ça. Mais ça disparaîtra jamais complètement. Donc, c'est normal de se sentir incertain devant des situations de soins ou devant notre posture dans le département. Et finalement, là, je suis perdue dans mes notes parce que. C'est correct de prendre son temps. Voilà. Donc, ma dernière chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise, c'est que c'est correct de prendre son temps durant nos soins, d'avoir peut-être une gestion de temps qui est moins efficace au début, de se permettre de d'avoir de, des fois on va moins prendre nos pauses, des fois on va finir un petit peu plus tard. Oui, on veut apprendre puis cheminer dans l'organisation puis dans la gestion de temps, mais c'est une impression que tu as d'être lente. Tu fais les choses sécuritairement, c'est ça le plus important. Donc, des fois, on a l'impression qu'il faudrait qu'on fasse les choses plus rapidement parce qu'on commence, parce qu'on a une moins bonne gestion de temps. Mais des fois, le plus important, c'est d'être sécuritaire durant ces soins-là. Il y a plein de choses que tu fais que c'est la première fois. Donc, on va cheminer dans notre rapidité, mais c'est correct d'être lente au début ou d'avoir une moins bonne gestion de temps. Tu vas apprendre là-dedans. Permets-toi parfois de finir un petit peu plus tard. C'est correct que tu fasses tes notes un petit peu plus tard durant la journée, de ne pas être parfaite au niveau de la gestion du temps, puis d'être un petit peu plus lente. C'est normal au début puisqu'on est encore une fois en apprentissage. Et on s'en va maintenant vers notre section Q&A. Je vous réponds à deux questions posées sur ma page TikTok.
En premier, j'ai une question d'une nouvelle CPI qui se préparait à son entrevue. Donc, comment se préparer à une entrevue comme candidate à la profession ou comme infirmière aussi, ce serait la même chose. On pourrait penser aussi qu'une entrevue pour externe ou pour préposé, ça pourrait être toute la même chose. Je vais te dire mes grandes lignes là, de préparation à une entrevue professionnelle. D'abord, je pense que, tu sais, comme pour toute entrevue, là, que ça soit dans le milieu de la santé ou ailleurs, il faut que tu te connais bien. Donc, ils vont te poser des questions sur quelles sont tes forces, quels sont tes défis. Donc, essayer de voir quelles sont vos forces et vos défis, particulièrement pour la profession vers laquelle vous allez postuler. Donc, si on parle pour une CPI, ben, c'est quoi tes forces en tant que CPI, puis c'est quoi tes forces, tes défis aussi. Donc, tu peux te fier un peu à tes stages. Puis, si tu as un défi, par exemple, je ne sais pas moi, c'est l'organisation du temps, tu sais que c'est ça, ta gestion de temps qui est le plus difficile en stage, puis que là, tu t'en vas postuler comme candidate, ben, c'est bien. C'est preuve de transparence si tu dis que tu as la difficulté à t'organiser, mais dis qu'est-ce que tu mets en place pour être meilleur, par exemple, par rapport à l'organisation. Donc, quand on nomme un défaut ou un défi, c'est important de montrer qu'est-ce qu'on fait aussi parfois pour le pallier, le rendre plus doux. Donc, assure-toi d'avoir comme des plans de match à nommer, là. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te sentir plus organisé, par exemple, ou si c'est que tes défis, c'est. De l'attention, que parfois tu as plus de difficultés au niveau de l'attention parce que tu as un TDAH, ben c'est bien correct. Mais là, tu vas dire ça, mais tu vas dire qu'est-ce que tu fais pour compenser au niveau de l'attention, pour t'assurer d'avoir une attention soutenue, par exemple, quand tu donnes des médicaments. Donc, tu donnes ça comme exemple, ça montre que tu t'es préparé à ces défis-là. Donc, évidemment, ils vont poser des questions comme ça. Parfois, ils vont poser des questions sur ton parcours professionnel avant. Ils vont aussi peut-être te renseigner sur le milieu où est-ce que tu postules. Donc, par exemple, si tu postules dans un centre hospitalier universitaire, quel avantage ça a d'être dans un centre universitaire? Ou si tu es dans un hôpital qui est reconnu pour son centre de cancérologie. Donc, des fois, d'avoir des choses qui distinguent le centre où est-ce que tu postules, mais quand ils vont te demander pourquoi tu veux travailler chez nous, tu as des choses qui sont vraiment spécifiques à ce milieu-là. Donc, avant ton entrevue auprès du CIUS, ben, va voir qu'est-ce qu'il offre de plus particulier. Comme ça, tu vas pouvoir montrer qu'est-ce qui te motive vraiment pour ce milieu-là. Les employeurs, ils aiment se sentir, ben, dans le fond, ils veulent voir que tu veux travailler chez eux particulièrement. Donc, si, il y a quelque chose qui les distingue, c'est intéressant de leur dire que tu l'as vu puis que c'est pour ça que tu veux travailler pour eux. Évidemment, si ça te motive, là, j'encourage l'honnêteté dans une entrevue aussi. Donc, qu'est-ce qui distingue mon milieu de soins? Après ça, si je postule sur un poste en particulier, donc par exemple, si c'est sur une unité en particulier ou une spécialité, ben, qu'est-ce qui me motive à aller dans ce genre de spécialité-là? Qu'est-ce qui fait aussi que c'est dans ce centre-là, à cet endroit-là que je veux travailler? Donc, fais ces réflexions-là avant l'entrevue, là. Évidemment, ça va t'aider d'être plus structuré dans ta pensée quand tu vas répondre aux questions. Donc, le milieu, nos forces, nos défis. Ensuite, si justement tu es dans une spécialité ou que tu sais dans quelle sorte de milieu tu vas postuler, bien, c'est intéressant que tu révises un petit peu ces concepts-là. Donc, par exemple, quand j'ai fait mon entrevue pour en soins palliatifs, Ben, je me suis renseignée sur les soins palliatifs. En fait, j'avais déjà des renseignements, mais je suis allée réviser mes concepts de soins de palliatifs, la sédation. Je suis allée voir aussi les normes, les lois qui régissent ça. Ça se peut qu'ils ne vous posent pas nécessairement de questions par rapport au milieu de soins où est-ce que tu vas. Ça dépend aussi à quel point c'est spécialisé, mais c'est important d'avoir des bonnes bases. Comme ça aussi, tu vas pouvoir donner des exemples dans ce que tu dis qui sont fondés sur le milieu où est-ce que tu vas aller travailler. Si, par exemple, c'est quelque chose comme la chirurgie, bien, c'est bon d'avoir tes concepts centraux là, de chirurgie en arrière de la tête. Aussi, ce qui est important, je pense qu'il est très important en entrevue, c'est que si jamais tu ne connais pas la réponse, c'est-à-dire, il te demande, par exemple, si ton patient il est post-op de chirurgie du genou, qu'est-ce que tu surveilles? Puis là, que tu nommes deux, trois choses, mais que la madame a dit qu'il en manque encore, ça ne devient pas. Mais l'important, ce n'est pas de commencer à essayer de trouver une réponse de ta tête, puis de juste chercher là, et de dire un petit peu n'importe quoi, entre guillemets. Parce que quand on va aller dire n'importe quoi, mais on va être moins solide, évidemment, puis ben, on pourrait se retrouver à dire quelque chose qui est faussé. Et ça, en entrevue, ça passe plus ou moins. Donc, si par exemple, tu dis qu'en post-op chirurgie du genou, tu dois surveiller les signes neuro, donc les pupilles, là, parce que tu ne savais plus quoi dire. Ben, ils vont faire OK, tu sais, est-ce qu'elle suit la sécurité? Est-ce que c'est quelqu'un qui va poser des questions, qui va douter ou c'est quelqu'un qui va foncer sans avoir trop les informations pour agir? Donc, ça vient lever un petit red flag là, côté sécurité. Donc, tu es mieux, si tu ne connais pas la réponse en entrevue, je pense que tu es mieux de dire ben, je ne connais pas la réponse, mais voici comment je la trouverai. Puis là, dire bon, je demanderai à quelqu'un d'expérimenter, j'irai voir dans mes livres. Je m'assurerai d'avoir la formation nécessaire pour travailler sur ce département-là aussi, donc peut-être que j'aurai plus de balises. Donc, d'aller dire comment tu trouverais la réponse, ça pourrait vraiment être aidant. Finalement, une des choses que je pense qu'on ne fait pas assez, c'est bien connaître notre rôle avant d'aller passer l'entrevue. Donc, si, par exemple, tu t'en vas faire une entrevue d'externe, de préposé ou de CPI, c'est important que tu saches qu'est-ce que la CPI a le droit de faire, la candidate à l'exercice de la profession. Qu'est-ce que le préposé a le droit de faire? Qu'est-ce que l'auxiliaire a le droit de faire? Parce que si, justement, tu as une question par rapport à ça, c'est important que tu sois en mesure de rester dans ton champ de pratique et que tu ne le dépasses pas. Quand on va faire une entrevue comme externe ou comme préposé, la distinction des rôles va être vraiment importante parce que, ton employeur, ton futur employeur, il sait que tu travailles, que tu fais des stages en tant qu'infirmière, puis que dans ces stages-là, tu fais des choses que tu n'auras pas le droit de faire comme externe ou comme préposé. Donc, puisque ton champ de pratique va être plus limité comme préposé ou externe, il va être en mesure de voir que tu vas être capable de rester dans ce champ de pratique-là et que tu n'en sortiras pas. Donc, ce n'est pas parce que, je donne un exemple, que tu es étudiant infirmier, puis que tu sais faire des pansements, puis que tu sais quoi mettre sur une rougeur ou une plaie au siège, par exemple, ben, comme préposé, ton rôle, ça va être de voir la rougeur et d'aviser l'infirmière pour qu'elle l'évalue. C'est pas de décider quel plan de traitement tu fais avec une plaie. C'est à l'infirmière de faire ça. Donc, ils veulent voir que si tu postules sur quelque chose comme préposé, que tu sortiras pas de ce champ de pratique-là. Donc, de bien connaître qu'est-ce que tu es autorisé à faire dans le rôle pour lequel tu postules, je pense que ça serait ma dernière recommandation la plus grande. Être authentique ensuite, donc être toi-même, de pas. Tu sais, des fois, là, on est tellement en entrevue, on veut tellement plaire, on va dire que non, on n'est pas stressé, mais si visiblement, ils voient que tu es stressé, c'est comme si ça défait un peu cette authenticité-là. Donc, sois honnête, là, si tu as des traits de personnalité, mais montre ensuite que, tu sais, oui, je suis quelqu'un d'anxieuse comme là aujourd'hui, je suis vraiment stressée pour l'entrevue, mais sachez que j'ai des bonnes méthodes de gestion, donc je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça montre un peu qui tu es puis comment tu gères, là. Et ton stress ou tes défis, par exemple. Finalement, dernière question pour notre segment Q&A. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, qui commençait son cours de DEC bientôt à la rentrée du mois de septembre et qui se demandait comment se préparer à la rentrée. Donc, on a beaucoup de temps. Le mois de septembre est encore loin. C'est une auxiliaire qui faisait son cours de passerelle, donc qui s'en va comme infirmière maintenant au DEC. Et on me demandait qu'est-ce que je recommanderais là, de faire pour se préparer à une passerelle, donc à cette transition-là entre auxiliaire et DEC. D'abord, je veux juste te dire de te faire confiance. Tu as déjà beaucoup d'outils pour ton DEC. Te faire confiance, je ne dirais pas que tu as beaucoup de choses à préparer. Hein. Dans le fond, théoriquement, là, on ne devrait pas avoir à se préparer à un programme avant qu'il débute. Donc, juste de prévoir le budget pour les livres, te reposer, assurer d'avoir une bonne balance avec le travail et les études, donc des recommandations quand même assez génériques pour ton programme. Ce que je te dirais que je vois souvent comme piège là, quand on passe de auxi à infirmière, c'est le faux sentiment là, de compétence infirmière alors qu'on est auxiliaire. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, des fois, on voit. Je ne veux pas dire tout le temps, mais on le voit souvent quand même. Quand on arrive comme auxiliaire, vous allez commencer votre cours au DEC, puis vous allez voir qu'il y a des thèmes là, que vous avez appris quand vous avez fait votre DEP. Donc, il y a des choses que vous vous rendez compte que vous connaissez bien. Il y a des choses que, tu sais, la préparation de médicaments, la préparation d'injections, c'est des choses que tu as déjà faites, là, si on veut. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as peut-être retrouvées dans ton programme de DEC que tu avais vu dans ton DEP, même avec la passerelle. Ça peut nous amener un sentiment de compétence, puis qui nous amène à des fois moins travailler fort pour l'étude. Parfois aussi, ça nous amène cette assurance-là qui fait qu'on s'ouvre un petit peu moins aux autres apprentissages parce qu'il y en a des apprentissages essentiels quand on commence dans le DEC, même si on est auxi avant. Il y a des choses que tu as à apprendre. Tu dois apprendre la posture d'infirmière là, pour tout ce que tu es en train d'apprendre. Donc, même si c'est des choses comme la préparation d'injection, il faut que tu penses que tu n'es pas auxiliaire, mais quand tu prépares ton injection, maintenant, tu es infirmière. Donc, il y a une nuance en arrière de ça, il y a des choses à apprendre. Puis de s'ouvrir à ces apprentissages-là, plutôt que de dire bah, je l'ai déjà vu, je le sais déjà, je suis auxi, d'essayer de te mettre ta lunette d'infirmière, puis il y a sûrement des choses que tu peux approfondir. Il y a un jugement clinique à développer de façon plus approfondie. Il y a des connaissances à aller chercher que tu n'avais pas dans ton DEP. Donc, de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, là, finalement, puis de s'ouvrir aux apprentissages, là. Si tu es là, c'est parce que tu as toute la motivation, d'être infirmière. Puis, je pense qu'il faut que, justement, ça soit payant, puis rentable d'être là. Donc, ouvre-toi à ces apprentissages-là plutôt qu'à te fermer en disant, je le sais déjà. Donc, ça serait ça ma plus grande recommandation là, pour la passerelle entre auxi et infirmière.
Merci d'avoir été sur Inf de novice à experte. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une collègue ou à une étudiante qui en aurait besoin. Commente aussi sous le podcast. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais durant les prochains épisodes. Je suis là pour vous, donc j'ai goût que vous me disiez ce que vous avez besoin. Puis rappelle-toi, on ne vient pas experte d'un jour au lendemain. On devient une expérience à la fois. Donne-toi toute la bienveillance d'être en apprentissage. À la prochaine!